Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Une intervention sanitaire et sociale dans un espace transfrontalier, savez-vous ce que c'est? Pour en savoir plus sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Ousmane Ndiaye, docteur en sociologie de la santé, chef de projet transfrontalier France-Espagne au groupement de coopération sanitaire, pôle sanitaire Cerdan. Bonjour Ousmane.
Bonjour Jean-Michel, bonjour, merci de votre invitation, merci à toute l'équipe du Centre national de la fonction publique territoriale. Merci.
Ousmane, vous avez piloté le projet Prospective transfrontalière sanitaire et sociale en Cerdagne de 2017 à 2020. Pouvez-vous présenter brièvement ce projet à nos auditeurs et auditrices?
Le projet Prospect SASO en Cerdagne fait partie d'un grand projet Prospect SASO qui couvre, on peut dire, huit partenaires, composé de huit parties, le groupe huit partenaires de Toulouse à Perpignan. À Toulouse déjà, on a deux partenaires, Paul Institut Saint-Simon, il y a Erasmus aussi à Perpignan, il y a l'Université de Perpignan qui pilote le projet, il y a le professeur émérite Yves Gilbert qui est très dynamique, qui est très impliqué dans ce projet, même avant même la création de l'hôpital, l'ouverture de l'hôpital transfrontalier. Il y a l'IRTS aussi, l'association Jésus Souvi, qui est le deuxième employeur du département, une très grande association, très active dans le secteur sanitaire et médico-social. En Espagne, nous avons comme partenaire l'Université de Barcelone, l'Université de Gérone et le Conseil Comarcal. Donc, c'est vraiment un projet financé à travers le Fonds européen de développement régional, donc FEDER. Ça, c'est le grand projet Prospect SASO. Une de ses activités porte sur la Cerdagne. Donc, le projet Prospect SASO couvre tant d'activités, mais une de ses activités porte sur la Cerdagne. L'activité Prospect SASO en Cerdagne est pilotée par l'association Jeux Souvi et concerne tout ce qui est parcours de soins. On travaille sur des effets frontières et parcours de soins, mais aujourd'hui, on va au-delà de ces parcours, s'intéresser sur des aspects territoriaux, s'intéresser sur les freins qu'on pourrait rencontrer en faisant recours à l'hôpital transfrontalier, etc. Donc, on travaille sur la promotion de la santé sur plusieurs thématiques aujourd'hui. Donc, en gros, c'est ça la présentation en fait du projet Prospect SASO.
D'accord. Pour comprendre la nécessité d'améliorer l'intervention sanitaire et sociale dans l'espace transfrontalier, en particulier pyrénéen, pouvez-vous nous aider en quelques minutes à appréhender la complexité des parcours de soins et de santé dans les zones transfrontalières?
Ouais, je précise, avant d'aborder cette complicité, la participation de plusieurs établissements dans ce projet en Cerdagne, notamment l'hôpital transfrontalier, le GCS pour le sanitaire Cerdan, l'Université de Perpignan, des acteurs comme les MSP, les EHPAD, voilà, le CLS, il y a les représentants des usagers, donc il y a pas mal d'acteurs qui sont impliqués dans ce projet. La complexité des parcours dans cette zone transfrontalière, il faut savoir que la Cerdagne est un territoire entouré de montagnes. D'abord, l'accessibilité est complexe, donc il faut prévoir des tempêtes de neige, les problématiques d'évacuation, d'urgence, etc. Donc, l'hôpital transfrontalier est considéré ici comme vraiment une réponse par rapport à ces contraintes-là. Si on parle de complexité, on peut évoquer également l'existence ou le croisement de deux systèmes de santé. des systèmes de santé, un système national, un système espagnol et un système français, un système hybride, avec une forte présence de la médecine libérale de l'autre côté de la frontière. Donc, ils ont aussi leurs attentes. Donc, ça aussi, c'est, on peut classer cet aspect sur des complexités des parcours. On va revenir plus tard, peut-être, dans la discussion. Si on parle de complexité dans les parcours, on peut évoquer la question de la langue aussi. La langue parlée, dans cette partie, dans ce territoire, il y a la langue catalane qui est la langue dominante à l'hôpital, parce que l'hôpital est installé sur le territoire espagnol, sur le territoire catalan. Donc, les difficultés de se comprendre, quand par exemple, si je suis un patient et que vous êtes médecin, je peux avoir des craintes sur les possibilités ou la possibilité de me faire comprendre quand j'exprime mes symptômes, par exemple, dans les interactions entre patients, praticiens, même dans les interactions entre un médecin français qui ne parle pas français et son collègue catalan qui ne parle pas français aussi, donc qui ne parle pas français. Donc, ça peut amener aussi des contraintes dans le fonctionnement d'un hôpital dit transfrontalier. Voilà, sur ces contraintes-là, je peux allonger la liste. On a mis en place un groupe de travail dès le début de ce projet-là, et qui consiste à analyser toutes ces questions, tous ces aspects qui freinent une coopération transfrontalière. Donc, l'objectif est de produire des connaissances, pas faire appel à des experts extérieurs, mais de mobiliser des acteurs du territoire, des professionnels de santé. Donc, c'est un groupe de travail pluriprofessionnel. Il y a des administrateurs, des responsables d'établissement, des médecins, des infirmiers, etc., etc., qui se réunissent chaque mois pour réfléchir sur qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qu'il faut améliorer, quelles solutions, etc., et définir des thématiques de travail. Donc, il y a plusieurs aspects qu'on peut évoquer pour parler de la complexité des parcours, mais je peux juste me limiter sur ces trois aspects et sur la réponse qu'on a mis en place pour réduire ces complexités-là.
Oui, justement, vous avez parlé de complexité des parcours. Merci Ousmane pour ces premières explications, mais revenons au regard des complexités des parcours de soins et de santé que vous venez de nous présenter ou d'évoquer. Quels obstacles administratifs faut-il surmonter dans un projet comme celui que vous avez mené?
Certains obstacles ont été relevés, notamment sur le plan, par exemple, du partage d'informations, sur la communication des informations, des relations entre l'hôpital et les professionnels de la ville, en tout cas de l'autre côté de la frontière, la médecine libérale. Si un médecin envoie un patient à l'hôpital, il peut peut-être avoir des informations sur l'évolution de son état, sur les diagnostics, sur le traitement, etc., etc. Donc, c'est une forte demande, même de la part de ces médecins, de vouloir renforcer ou faciliter la communication entre les médecins hospitaliers, les médecins de l'hôpital transfrontalier et les médecins libéraux. Donc ça, c'est un manquement qu'on avait observé et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'améliorations. Sur des aspects, des obstacles administratifs, juste après la création de l'ouverture de l'hôpital, il y avait des freins, notamment sur les naissances, par exemple, un Français né à l'étranger, un Français qui, une femme qui accouche, par exemple, à l'hôpital transfrontalier, l'enfant est un Français né à l'étranger. Donc, il fallait des démarches administratives, des procédures pour des changements de papier, etc. Donc, ça, c'était vraiment une contrainte très lourde chez la population. Les décès, pareil. Donc, c'est un Français décédé à l'étranger. Donc, il y a des procédures dessus. Donc, tout ça a été relevé, mais je pense que depuis 2016, on a apporté des réponses concrètes par rapport à cette situation, à ces obstacles administratifs-là. Donc, ça aussi, c'est un des aspects qui mérite quand même d'en parler. Obstacle administratif. On peut évoquer également la question aussi de la reconnaissance du droit d'exercer des professionnels. Par exemple, une aide-soignante qui va aller travailler à l'EHPAD qui est en France, par exemple, une aide-soignante espagnole qui veut travailler à l'EHPAD qui est juste à côté, à 5 minutes. Ou bien un professionnel français qui va aller travailler de l'autre côté de la frontière. Ça aussi, ce sont des aspects à revoir. Donc, la solution est d'assouplir les procédures dans le cadre de la coopération transfrontalière. Donc, il y a pas mal d'obstacles administratifs qu'on peut relever dans ce fonctionnement là, au niveau territorial, au niveau aussi de l'hôpital, comme des différences de salaire liées à des conventions collectives qui sont complètement différentes, des problématiques de fiscalité, et donc c'est quelque chose qui peut bloquer. Et je pense que depuis en fait notre dernière rencontre, en fait, on avait organisé une rencontre internationale en évoquant ces questions là, je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui se développent aujourd'hui pour réduire ces obstacles-là, ces obstacles administratifs.
Est-ce que Schengen intervient, le fait que soit l'Espagne et la France soient dans le réseau Schengen, pour permettre justement de lever ces obstacles administratifs propres à chaque pays?
Oui, il y a des outils européens qui permettent de réduire ces obstacles-là. Il faut noter que c'est le premier hôpital transfrontalier dans le monde. En Europe, il n'existe pas. Il y a des conventions entre France, Belgique, entre France, Suisse, entre France, Italie, etc., etc. Il y avait avant une convention entre France et la Cerdagne pour les évacuations, pour les problématiques d'urgence, etc. Mais la création d'un hôpital européen, d'un hôpital transfrontalier devrait résoudre ces questions-là. Ce qui pose problème, c'est que chaque État a ses complexités administratives et que voilà, il faut arriver à s'appuyer sur des outils de l'Europe pour résoudre ces problématiques-là. On a réussi à résoudre, par exemple, les problèmes des ambulances. On a eu une ambulance, il y a des difficultés pour que l'ambulance traverse la frontière. Il y a des normes pour les ordonnances, par exemple, les ordonnances. Quand un Espagnol sort de l'hôpital, il n'a pas besoin d'une ordonnance signée, par exemple. En France, si vous amenez une ordonnance chez la pharmacie, vous n'aurez pas de médicaments parce que ce n'est pas signé. Des choses de ce genre, des petits trucs comme ça qui fait que ça bloque. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'améliorations, comme je l'ai dit, sur les naissances, sur les décès. Et on s'appuie sur les outils européens, on s'appuie sur aussi une possibilité, c'est une marge de manœuvre. En fait, le fait d'être le premier hôpital sous expérimentation, je pense qu'on peut arriver à adoucir ces contraintes administratives et aller de l'avant. Je pense que c'est l'objectif, en tout cas, des acteurs locaux.
D'accord. Votre projet, donc, dans une zone à cheval entre deux pays, se confronte donc à des pratiques culturelles de soins de santé qui peuvent être différentes. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet?
Les pratiques culturelles de soins, là, on peut parler des façons de faire qui sont liées à des recommandations nationales ou internationales. En Espagne, c'est accessible. Ça facilite la tâche. Ça permet, par exemple, de connaître les antécédents des traitements, etc. Ce qui pose problème, c'est que le médecin hospitalier, en tout cas de l'hôpital de Poussière de Cerdagne, n'a pas une certaine visibilité sur la carte vitale, des patients. Des patients français. Donc, c'est pas informatisé. Donc, l'accès est vraiment difficile. Côté français également, les professionnels de santé n'ont pas accès aussi à des informations, on peut dire informatisées, pour avoir pour plus d'efficacité, pour plus de cohérence dans les parcours, etc. Donc, ça aussi, c'est sur les problèmes de parcours. L'enjeu, c'est d'améliorer les échanges d'informations entre les médecins libéraux, les généralistes en général, et en France et l'hôpital de Cerdagne. Donc, essayer de mettre en place quelque chose qui peut faciliter ces pratiques-là. D'autres pratiques culturelles des soins, on peut évoquer peut-être les protocoles de soins, qui peuvent être différents selon les besoins ou la priorité définie dans le système. Dans le système espagnol peut définir des priorités qui ne sont pas les mêmes, par exemple, dans le système français. Donc, il y a plusieurs façons de traiter, par exemple, une maladie. Le système peut mettre en priorité la solution la moins coûteuse, par exemple, ou l'efficacité. Par exemple, le système peut choisir le traitement le plus efficace pour traiter une maladie en acceptant de mettre le moins qu'il faut. Par exemple, si on prend l'exemple des AVC, est-ce qu'on va faire un scanner ou IRM dans le système espagnol, en tout cas, d'après les témoignages des médecins interrogés à l'hôpital, automatiquement, on utilise le scanner, moins coûteux, très performant. Le médecin français peut faire allusion, si c'est un patient français, jusqu'à l'IRM, même si c'est coûteux, etc., etc. Donc, ce sont des éléments comme ça qu'on peut relever dans les pratiques qui sont liées à des politiques de soins qui leur dépassent souvent. Autre élément, dans les pratiques culturelles de soins, on peut parler de la place de la famille. La famille, le rôle de la famille dans les parcours de soins, le rôle de la famille dans l'accompagnement des patients, particulièrement les patients les plus fragiles, les personnes handicapées, les personnes âgées, etc., etc. Donc, ces éléments-là s'inscrivent dans des conceptions culturelles complètement différentes. En Espagne, par exemple, la famille supporte plus le poids des personnes âgées. Donc, on vit avec, on va l'accompagner à l'hôpital et on peut même dormir avec le malade, avec le patient, on mange avec, on observe dans la démarche de soins une présence de la famille qui arrive à faire parfois des gestes de soins qui en France ne peut être exécuté que par des professionnels, par exemple la toilette, etc., etc. Donc, on peut observer en dehors même de l'hôpital, dans les EHPAD, par exemple, on peut observer des membres de la famille qui viennent manger avec les personnes âgées, midi, le soir, etc. Donc, ça, ce sont aussi des pratiques qu'on a observées dans les parcours de soins, dans l'accompagnement, etc., etc.
D'accord, Ousmane. Revenons, si vous voulez bien, au projet Prospect Sasso, évoqué au début d'émission. Pouvez-vous nous décrire l'expérience que vous avez vécue dans la mise en œuvre de ce projet?
L'expérience vécue. Décrire l'expérience vécue sur le territoire, je devrais parler de mon expérience, en tout cas de l'expérience de la mise en place de ce projet territorial. Ce que je peux partager peut-être avec les auditeurs, durant ces trois années de pilotage d'activités transfrontalières, c'est surtout la stratégie d'un travail collaboratif, travail collaboratif franco-catalan, qui permet des façons de faire, en fait, qui permet de traiter la frontière comme un échangeur, le fait de former un groupe pluridisciplinaire, pluriprofessionnel, le fait que le représentant des médecins, le représentant de l'hôpital, le directeur de l'hôpital, le représentant des usagers arrivent à échanger, travailler chaque mois, décortiquer les sources. Donc, l'objectif, c'était d'arriver à gommer la frontière, en fait. Pas considérer la frontière comme un mur, mais comme un échangeur. Qu'est-ce qui peut être enrichissant sur cet aspect-là? Cette démarche est organisée en trois phases. Par exemple, on a déjà commencé à une phase d'interconnaissance, une phase qui permettait, par exemple, qui permettait aux acteurs de s'impliquer davantage, professionnels, usagers, d'organiser des échanges, définir des thématiques, des échanges, etc. Donc, se connaître mieux, connaître le système, les façons de faire de l'autre. Donc, ce sont des échanges, je pense, qui sont importants avant de démarrer le travail. L'autre aspect, c'est l'autre phase, du moins, porte sur un travail d'interculturalité, d'interconnaissance en premier, l'interculturalité qui nous a permis de comprendre les logiques d'action, qui nous a permis de comprendre les pratiques de soins, hein, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut accepter le tutoiement dans un hôpital, comment le français peut prendre, est-ce que tel patient pourrait accepter qu'on lui tutoie, le tutoiement, le vouvoiement, des choses, décortiquer ces éléments-là, nous permettrait de comprendre ces logiques d'action, nous permettrait de comprendre les pratiques, de comprendre également les systèmes de représentation, qu'est-ce que l'autre pense des pratiques de l'autre. Donc c'était vraiment capital de travailler sur ces aspects-là. Et enfin, la part d'interaction qui portait sur la construction d'un projet commun, comme organiser ensemble des séminaires, organiser ensemble des journées d'échange. Nous avons organisé, par exemple, en 2018, un colloque international sur les parcours de soins des personnes âgées au niveau territorial, en 2019 sur les problématiques de la coopération sanitaire, par exemple, qui a réuni du monde avec des intervenants qui viennent partout d'Allemagne, qui viennent de Belgique, etc., qui confronte des problématiques transfrontalières. Donc, ce sont des choses qu'on a organisées ensemble. Donc, un tel projet s'appuyait véritablement sur l'animation des acteurs, aller vers les acteurs, malgré les barrières linguistiques, bien sûr. Toujours, on arrivait à trouver une solution par rapport à ça. Ça nous a permis quand même de créer une dynamique, on peut dire, inclusive, une dynamique innovante, hein, pour que les acteurs se sentent durablement impliqués dans un processus de développement territorial. Donc, c'est vraiment une belle expérience que j'ai eu l'honneur quand même de voir dans ce territoire-là, dans le territoire transfrontalier, le fait de travailler à cheval entre ces deux systèmes, d'organiser, de mobiliser. Donc c'est une belle expérience.
En fait, vous avez le système administratif français d'un côté, espagnol de l'autre, mais la charnière et le point commun où vous étiez géographiquement, c'est quand même le catalan, quoi, la région catalane, côté français et côté espagnol, quoi.
Oui, côté français, côté espagnol, on peut dire la Catalogne du Nord, Catalogne du Sud, c'est côté français, Catalogne du Nord, Catalogne du Sud, côté espagnol, Catalogne du Nord, côté français. Il y a des familles, beaucoup de familles qui parlent, qui sont de bilingues.
Oui, mais c'est comme le Pays Basque où il y a, c'est pareil, c'est à cheval sur les deux pays. Et donc là, vous aviez, donc actuellement, donc il y a une communauté transfrontalière de santé en Cerdagne que vous avez contribué à construire. Et pouvez-vous nous parler un peu de cette communauté, globalement?
Concernant la communauté transfrontalière de santé, nous sommes aujourd'hui en phase de projet avec le professeur Gilbert et l'ensemble des acteurs. Nous sommes en train de travailler avec les acteurs sur un projet commun pour la prochaine programmation du POPTIFA 2021-2027. Donc, ce projet consiste à aller au-delà de l'hôpital, pas centré uniquement sur l'hôpital transfrontalier, mais de réfléchir sur un projet territorial, de s'intéresser sur la santé en général, qui est un des aspects de l'ARS aussi, qui appuie en fait cette réflexion, le fait d'ouvrir l'hôpital vers les autres aspects de la santé. On est dans un milieu touristique, pourquoi pas, la promotion de la santé, personnes âgées, petites enfants, etc. D'autres acteurs aussi s'intéressent à ce projet, notamment le pôle pédiatrie, qui a des projets transfrontaliers sur les diabètes, sur pas mal des projets d'activité physique, etc. Établissement, par exemple l'EHPAD, la maison de retraite de catalane qui est juste à côté, et la maison de retraite côté français, arrive à travailler ensemble, par exemple, des choses de ce genre. Donc on est vraiment en phase de réflexion concernant ce projet de communauté transfrontalière de santé en Sardaigne.
Oui, Ousmane, notre émission touche à sa fin. Quel souhait feriez-vous pour renforcer la vitalité de cette communauté en construction?
Le souhait, c'est d'arriver à lever l'effet frontière, à lever les barrières, lever les barrières, d'estomper la frontière comme obstacle de la réalisation de la mobilité des professionnels, de la mobilité des patients, de recours à l'hôpital, de l'hôpital transfrontalier, de l'équipement, de l'accessibilité à l'équipement, etc. Le souhait, c'est aussi d'arriver à mettre en place un dispositif, par exemple, informatique de partage d'informations médicales entre les professionnels de santé de l'autre côté de la frontière, qui permettrait d'améliorer les parcours de soins et de santé. Donc, il faut vraiment arriver à, sur cet aspect-là, sur ce point-là, arriver à créer un RGPD transfrontalier qui s'appuie sur les recommandations européennes de gestion des données personnelles qui permettrait, par exemple, médecin traitant d'envoyer, par exemple, un patient et de suivre sur sa machine, sur le plan informatique, en fait, sur les traitements, les diagnostics, sur l'état de santé de son patient en général. Donc, c'est plus pratique, plus accessible. Donc, c'est vraiment une demande forte de la part des professionnels de santé libéraux.
C'est vrai que la RGPD ne facilite pas trop le travail sur l'information. Il y a certains aspects juridiques qui amènent de la lourdeur dans la façon de traiter l'information.
La façon de traiter l'information en Espagne et en France, ça peut avoir des peut rencontrer des contraintes, mais dans une expérimentation d'un territoire vraiment transfrontalier, de coopération transfrontalière, on peut arriver à réfléchir sur un RGPD transfrontalier en s'appuyant sur les recommandations européennes.
Oui, effectivement.
L'Europe est là, je pense, que pour nous donner des outils permettant de travailler ensemble. D'autres initiatives qu'on peut parler sur le plan administratif, juridique et autres, mais je pense que les pratiques, ce qui pourrait améliorer le travail, je pense que... Donc, comme souhait, je dirais, si on parle, par exemple, de coopération transfrontalière, on peut arriver à lever l'effet frontière, à lever les barrières. Il s'agit d'estomper la frontière comme obstacle de la réalisation de la mobilité, par exemple, des professionnels. Ce sont des aspects qu'on a évoqués plus haut. De la mobilité des patients aussi, recours à l'hospitalisation, de l'équipement, de l'accessibilité, etc. Et je disais également qu'on pourrait, par exemple, mettre en place un dispositif informatique de partage d'informations médicales pour que le médecin traitant puisse suivre facilement les traitements, le parcours en général de son patient qui est admissible à l'hôpital. Préparer sa sortie pour organiser en tant que coordinateur peut-être pour la coordination de la prise en charge à domicile, alerter le SIAD, alerter les autres intervenants à domicile. Donc, faciliter en fait cet échange d'informations, l'accessibilité à l'information. Donc, une belle communication entre l'hôpital et la médecine libérale en général. Donc, pour cela, on pourrait, par exemple, arriver à créer un RGPD transfrontalier. En s'appuyant sur les recommandations européennes. Donc, pas que les réglementations côté français, les réglementations côté espagnol, mais arriver en tant que territoire expérimental de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place en s'appuyant sur des outils européens pour faciliter le travail, pour faciliter la communication entre l'hôpital et la ville et le secteur libéral en général. Beaucoup d'autres initiatives sont à développer pour réduire les effets frontières et rendre la frontière moins visible. Sur le plan administratif, j'avais parlé des Sur le plan administratif, j'avais évoqué aussi les problèmes de salaire, les différences de salaire entre un médecin espagnol et un médecin français, une infirmière espagnole et une infirmière française, etc. Donc, il y a pas mal d'aspects qui nous amènent à une réflexion approfondie pour arriver quand même à créer, à mettre en place un hôpital transfrontalier, un hôpital européen. Donc, si on entre dans l'hôpital, on n'est pas ni français ni espagnol, mais on est un professionnel européen ou transfrontalier, en quelque sorte.
Effectivement. Merci beaucoup, Ousmane Ndiaye. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en sociologie de la santé, chef de projet transfrontalier au groupement de coopération sanitaire, pôle sanitaire CERDAN.
Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous cette expérience, cette belle expérience en Cerdagne. Et voilà, je remercie également tous mes collaborateurs depuis ces trois dernières années. Et on espère bien continuer ce projet dans le cadre de la communauté transfrontalière en santé. Merci Jean-Michel.
Oui, c'est vrai que c'est un très beau projet. Et quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Au revoir à toutes et à tous et à bientôt pour une prochaine émission.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.